Ça se passe sur radio-libertaire.org. Vous avez également les autocollants de Radio Libertaire que vous pouvez vous procurer à Publico, à la librairie du Monde Libertaire au 145 de la rue Amelot. Et enfin, le bouche à oreille est le moyen de soutenir Radio Libertaire qui ne coûte pas un rond mais qui est très efficace. À l'instant même, nous avons écouté la rediffusion du Ferré Club numéro 296 de la semaine dernière et je vous propose tout de suite d'enchaîner avec la seconde partie de l'entretien avec Alaric Perrollier consacré aux 50 ans de l'album Il n'y a plus rien. On enchaîne tout de suite maintenant sur cette même antenne, Radio Libertaire, la voix de la Fédération.
Sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Le Ferré Club, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dernière partie de l'entretien avec Alaric Perrollier au sujet d'Il n'y a plus rien, les 50 ans. Il n'y a plus rien.
C'est quoi déjà ?
Oui.
La nuit, ça me transporte. Parce que la nuit, à part le fait qu'il y a la nuit, il y a des gens qui font des hold-up, qui font des trucs, qui assassinent des gens. Non, mais je ne parle pas de ça. La nuit, les cons dorment. Voilà. C'est pour ça que j'aime la nuit. Et c'est vrai, ça. Les cons dorment. Ils se lèvent le matin, ils mettent les chaussettes, tac, ils vont travailler. Et le soir, ils rentrent. Et ils redorment. Tandis que la nuit, il y a les marrants, quoi. Les terribles. J'avais fait une chanson qui s'appelle Richard, que je vais mettre dans un nouveau tour de chant, maintenant. Je parlais à Richard, et je lui disais... Je le voyais dans un bistrot, toujours. Et je regardais derrière le comptoir. C'est la seule chose qui va très bien avec moi, avec les copains que j'aimais. C'est la mélancolie et la solitude habitée. La solitude habitée, c'est la solitude comme ça, du moment, avec quelqu'un, trois, quatre personnes. Et après, ça te laisse une réviviscence qui fait que tu habites ta solitude, tu n'es plus seul, t'es jamais seul, et t'es toujours seul aussi. Et moi, je préfère être seul, toujours.
De ces temps-là vivaient parfois.
Richard, ça va?
Si les copains cassaient leur âme à temps pressé, le citron de la nuit dans les brumes pernaux, si les filles prenez le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait, qui les berçait.
Richard.
à cette nuit, comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié. Richard, ça va ? Nous avons une nuit comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar devant la bière allemande. Quand je nous y revois, des fois, je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois. Richard, hé, Richard.
Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes. Simplement, des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre en regardant loin, derrière la glace du comptoir. Et on se dit qu'il est bien tard. Qu'il est bien tard.
Monsieur Richard, le dernier, pour la route.
Nous voici à Il n'y a plus rien, le titre qui donne son nom à l'album. Alors, conception d'une chanson un peu compliquée. Hein,
C'est comme un texte de commande. Léo n'a pas de lui-même écrit ce texte. Son camarade Maurice Fraud travaillait avec ce qui était devenu du coup un copain, un cinéaste qui s'appelait je ne suis pas sûr de son prénom, Fourastier.
Ah oui. Ensemble,
ils avaient développé un scénario de long métrage qui devait passer à l'avance sur recette au CNC pour obtenir des financements. Je ne sais pas s'ils étaient en cheville avec une maison de production. Bon. Et c'était une sorte de revisite du mythe de Saint-François d'Assise, moderne, donc dans l'univers de la lutte des classes, du monde des usines, très post-68, gaucho, quoi. Et Léo, donc, Fraud avait développé, parce que Fraud avait des velléités... c'est même plus que des velléités. Il a publié, il a écrit des livres. Il s'est fait connaître en publiant en 65 Le Roi des Rats, qui parlait de son expérience en Indochine, parce qu'il a fait la guerre d'Indochine. Et Léo l'a préfacé d'ailleurs. Et c'est un peu grâce à l'entre-jean, j'allais dire. Léo n'a pas spécialement, mais bon, Léo a un peu appuyé et je pense qu'il s'est fait aussi publier parce que Léo a aidé, quoi. Alors, il n'a pas pris son téléphone en disant il faut publier Fraud en connaissant les éditeurs. Ouais. Mais quand on a une préface de Ferré, ça aide un petit peu malgré tout. Alors que Léo n'avait rien publié à part son recueil de poésie lui-même. Hein, c'est ça qui est étonnant, c'est que Léo, c'est quelqu'un qui pouvait prendre son téléphone ou aider ses copains, mais qui ne demandait rien pour lui-même. Cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Et donc Fraud écrivait. il écrivait donc ce scénario de long métrage, et à un moment donné, il voulait sans doute faire tourner Léo dedans. Et donc Léo, bon, pourquoi pas. Et à ce moment-là, en 72, il faut comprendre que Léo devient, est, incarne, à cette époque, c'est une figure de la pop culture, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il y a un certain nombre de cinéastes qui se sont un peu réveillés en disant « Tiens, il y a un mec qui s'appelle Léo Ferré ». Bon, peut-être aussi que son look ayant évolué à Léo, il était devenu encore plus cinématographique que quand il se teignait les cheveux. C'était un gars normal, maintenant c'est un mec qui a un look, quoi. Donc, en même temps, c'est très difficile d'en faire quelque chose, de le faire tourner, de le fondre dans un personnage. Donc, tous s'y sont cassés les dents, ça ne s'est pas fait. Fourastier donc écrit avec Fro ce scénario qui ne sera pas financé parce que en fait on connaît l'anecdote. Léo a dit il faut pas mettre mon nom sinon vous n'aurez pas les financements. Fourastier n'a pas écouté, ils n'ont pas eu les financements. Bon, parce que Léo se pensait à tort ou à raison tricard partout, c'est-à-dire mais Léo Ferré, vous comprenez, voilà.
Ça lui donne un peu raison alors là du coup. On peut
savoir.
L'estimer,
ouais. Oui. Mais donc Léo avait écrit à la demande de Fro sur une grande scène où en fait il devait dire dans le scénario, le nouveau François d'Assise devait dire leur fait aux méchants. en l'occurrence, il incarnait un jeune fils de PDG d'entreprise. Et après, il décidait de partir avec les réprouvés et les prolétaires, je crois, dans le scénario. Et donc, je ne sais plus à qui il s'adressait exactement, qui s'était un peu institué en son tribunal pour le juger, parce qu'il était traître à sa classe, étant fils d'un bourgeois. Et je crois qu'il s'adressait à un auditoire à ses juges, qui étaient des bourgeois. Et donc, dans le film, c'était ça. Et donc, il a écrit cette espèce de harangue où en fait il leur parle, et c'est toute la fin d'Il n'y a plus rien. On va dire, grosso modo, la dernier tiers, deuxième moitié. Et évidemment, il a fait des petits remaniements de tout ce qui avait trait à l'univers interne du scénario pour faire quelque chose de non marqué, on ne sait pas qui parle. Il n'y a pas de contexte d'usine ou de quoi. Et après, il a retravaillé tout le début du texte. Alors, je ne sais pas d'où provient exactement le texte. Je ne suis pas à jour, je n'ai pas révisé du début. Mais ça donne ce texte méandreux, comme on dit, qui a des détours et qui bifurque, en fait. Mais c'est très Léo, ça, le côté de bifurquer. Dans ses textes en prose, il adore bifurquer. Introduction à l'anarchie, c'est dur à suivre, tu vois. C'est pas un discours démonstratif. C'est un discours saccadé, qui part d'un truc, qui fait penser à autre chose. C'est plutôt, je dirais, une pensée en escalier, quoi, ou en marabout bout de ficelle. Une chose fait penser à une chose, qui fait penser à une chose, qui fait penser à une chose, et il y a des images frappantes, et Léo ne s'attarde pas, en fait. Et c'est pour ça que c'est un texte et un morceau qui est assez difficile d'accès. Si on veut en avoir une compréhension, on le ressent, en fait. On le ressent, on se le prend sur la gueule, parce qu'évidemment, ça dure un quart d'heure. Léo est d'une puissance vocale inouïe. Il choisit de s'accompagner à l'orchestre symphonique, mais il fait quelque chose d'hyper minimal, qui, selon moi, est quand même une sorte de variation sur l'idée du boléro. C'est-à-dire, on prend une mélodie, on écrit une mélodie qui est tellement bien écrite, enfin, c'est pas une question d'être bien écrite, mais qui est écrite de manière à ce qu'en fait, quand on la répète, on ne se lasse jamais. C'est une succession de notes qui fait que ça. Le boléro, c'est ça. C'est une mélodie qui est incessamment répétée et on ne se lasse pas. La mélodie est tellement bien trouvée, bien agencée, qu'après, c'est plus que de l'habillage, en quelque sorte. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il y a une sorte donc de miroitement de l'orchestre où ça va, ça vient, il y a de la voix, il y a un peu des percussions qui, selon moi, sont un peu superfétatoires. Mais bon, ça, c'est un morceau qui, je pense, mériterait de sortir avec un nouveau mix pour qu'on entende mieux les détails de l'orchestration. Parce que c'est très riche. Et donc, cette approche répétitive, en fait, de la musique derrière, donne une sorte. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui soient rétifs à ça, qui trouvent ça lourd ou pesant. Mais moi, je trouve que c'est ce qui donne ce côté. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas quand ils ont l'impression, en écoutant de la musique, de se faire marteler quelque chose. Bon, là, on va pas dire oui, il fait pas des chatteries, Léo, il martèle, là, il va au marteau-piqueur. Ouais. Et donc, du coup, le choix musical, parce qu'il aurait pu, faire quelque chose comme dans Les Amants Tristes, où au contraire, la musique change tout le temps. C'est plus dramatique dans le sens où ça, il y a des ruptures, bon. Donc moi, je trouve ce morceau, ça m'avait fasciné, parce que moi, j'aime bien la musique minimaliste répétitive, tu sais, contemporaine, ce qu'on appelle les minimalistes répétitifs. Alors, il y a des réussites, il y a des choses moins réussies, il y a des choses un peu redondantes, il y a des choses un peu... Léo, je pense, ne connaissait pas, parce qu'au moment où il fait Il n'y a plus rien, 72, il enregistre le morceau fin 72, il n'y a quasiment rien qui est sorti en disque. Ça va prendre son essor vers la fin des années 70. Il va y avoir des publications et ça va infuser dans le monde musical classique. Léo était à l'affût, il écoutait des trucs. D'ailleurs, les chants de baleine en sont la preuve. C'est que personne n'avait entendu de chants de baleine avant. Enfin, c'est pas lui qui enregistre les chants de baleine. Donc, j'en parlerai pas ici de pourquoi il y a des chants de baleine et tout ça, c'est très intéressant. Mais les premiers chants de baleine enregistrés et diffusés dans le commerce, c'est 1970, donc 2 ans avant. Et c'était pas sur le marché français. Donc, Léo, par un concours de circonstances qui a déjà été évoqué par d'autres que moi, se retrouve avec ça entre les mains. Je pense qu'il a un énorme coup de cœur. Il se dit, mais c'est génial, c'est un son inouï, je le prends. C'est intéressant parce que je te disais tout à l'heure que ces teintes vertes sous-marines, avec ses cheveux qui pendent sur ses épaules comme des algues de la couverture, bah, peut-être que je me convainc de ça, mais je trouve que c'est assez cohérent avec le fait d'aller sur le plat de résistance, il n'y a plus rien, on arrive, et là, on largue les amarres. On quitte un peu tous nos repères, et ça commence par des sons... Même Pink Floyd n'a pas fait ça. Mais tu vois, je parlais de l'influence de la pop sur le fait de vouloir tresser les morceaux entre eux qui s'enchaînent. Je pense que Léo qui écoutait Pink Floyd, Pink Floyd aimait sur certains morceaux mettre des sons d'oiseaux, comment on appelle ça, c'est pas du field recording, mais c'est des sons naturels avec en jouant par-dessus, intégrant ça dans les chansons. C'était pas fait avant, pas vraiment. Je sais pas si c'est les premiers à le faire, mais je crois pas qu'il y ait eu des sons naturels mêlés à de la musique. Et je pense qu'il s'est dit, moi le petit français, enfin je pense pas qu'il disait moi le petit français qui a un complexe d'infériorité, mais il s'est dit, moi je vais répondre à Pink Floyd. Très bien, je vais faire comme eux, mais je vais pousser plus loin parce que moi je mets des sons qu'on a jamais entendus. Et c'est des sons naturels et c'est des sons de baleine. Alors, bienvenue tout de suite dans les grandes profondeurs avec moi. Je vous parle des grandes profondeurs au milieu de mon escorte de baleines. Tu vois, ça pose direct le truc. On se dit, ah, là, ça, t'as la mâchoire. Enfin, je veux dire, faut être hyper blasé pour se dire, oh ouais, c'est quoi, c'est tout pourri, qu'est-ce que c'est que ce truc. Ça, tout de suite, il me propose un voyage, immédiatement. Ouais. Et après, l'orchestre arrive. Et l'orchestre fait quelque chose qui est hypnotique, selon moi. La répétition joue et Léo, je pense, je te parlais du boléro, je pense qu'il cherche à faire quelque chose pour figer le temps. Et l'ambiance sous-marine, la mer, l'océan, si tu veux, c'est l'infini. C'est l'infini, c'est un temps qui est extra-humain. Les baleines vivent leur vie indépendamment de nous. Bon, alors quand elles rencontrent des humains, ça se passe pas bien. Pas toujours. Enfin, bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles vivent leur vie. Et c'est une vie immémoriale, c'est un autre rapport au temps. Et donc, tout ce que cherche à faire Léo, c'est justement ces baleines, c'est pas juste gratuit, c'est pas genre, je vais faire un truc à la Pink Floyd. Et par comparaison, ça fait ressortir les choix de sons d'animaux de Pink Floyd comme des trucs gratuits. Pink Floyd fait petit joueur à côté. Le truc de Léo, tu te dis, mais il y a une cohérence discursive avec le texte et avec ce qu'il veut dire et le fait que ça arrive à la fin de son parcours d'écoute. Où tu te dis, voilà, un poète s'empare du truc, c'est pas un bidouilleur, c'est pas trop un explorateur sonore, Léo, mais là, il a mis la main sur un truc, il a dit, je le mets dedans, ça me plaît. Je sais pas comment il s'est dépatouillé pour les droits et tout, mais... et ça commence comme ça. Et donc là, il pose le game. Tu vois et il termine aussi par les baleines. Donc c'est vrai qu'à la fin, il nous laisse comme ça sur un truc où en fait, il prend le large, il laisse les hommes à leur turpitude. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est un geste qui paraît simple, expliqué comme ça. On se dit, oh, bah oui, d'accord, ok. Je ne sais pas si beaucoup de chanteurs font ça. Et c'est surtout que par rapport au texte, qui est un réquisitoire je dirais, le mensonge social dans lequel on vit dans la société, nos sociétés. Je vais vite, il y a plein de choses dans le texte, mais c'est comme si le poète se mettait, si tu veux, dans une posture d'observation, c'est comme s'il se défoulait, comme s'il sortant de la foule. C'est comme s'il se mettait dans la marge par rapport au texte, tu vois, pour reprendre des métaphores que lui-même aimait. C'est-à-dire qu'il trouve un ailleurs à partir duquel il dit, bah, moi, en fait, je suis plus de votre cycle, et maintenant, je peux voir lucidement, parce que je suis plus dans le bain, en fait, j'ai plus le nez dans le guidon du jeu social. Et c'est comme pour, si tu veux, donner une assise et une légitimité à sa charge, c'est de dire, mais moi, je suis plus comme vous, là. J'ai fait un travail, je suis avec les baleines, là, c'est fini. Alors, on pourrait trouver que c'est implicite, hein, ça n'est pas revendiqué par le texte. Mais c'est une manière de d'où parle le locuteur, d'où il nous parle. Et le fait que, en fait, si tu veux, il y ait des baleines et que, en fait, il nous montre une sorte de ressac. La musique fait comme une sorte de ressac. Il y a quelque chose finalement d'aquatique, tu vois, parce que c'est toujours la même mélodie qui revient, comme une sorte de. Alors, il y a plusieurs interprétations face à ça. C'est soit, moi, je te dis que Léo, il veut figer le temps. Il veut figer le temps, pourquoi ? C'est quoi la finalité ? Pourquoi avoir ce choix esthétique quand on fait un texte qui critique la société ? Est-ce qu'il critique la fuite en avant de la vie sociale qui fait que, si tu veux, on doit vivre, consommer, avoir des loisirs, parce qu'il critique la société de consommation dedans. Il y a toute une sorte de métaphore filée sur la... On est très dans une ambiance grande bouffe, si tu veux. Parallèlement, t'as la grande bouffe de Ferreri. Et donc, quand il dit « on nous élève pour nous becter », alors bectons. Tout ça est cohérent. Il y a une sorte de moment historique où, en fait, il y a un rejet de ce qu'on nous dit être bien dans la société de consommation. Et donc, du coup, la façon de tout arrêter, de figer, c'est une manière de dire stop, on réfléchit, quelque part. Mais c'est aussi une manière de créer un ailleurs pour condamner, pour dire mais moi, je suis sorti, je me suis extrait de ça. Ou alors, c'est une manière de... C'est peut-être pas si réfléchi que ça. Je pense que Léo était très intuitif, hein. Il faisait les choses sans trop se dire « je vais faire ça parce que ça veut dire ça » et que donc, du coup, j'aurais tel effet sur mon auditeur. Non, c'est beaucoup plus viscéral. Il aime les chants de baleines, il sent qu'il y a une cohérence à utiliser les chants de baleines. Je ne sais pas si le début du texte, il dit « écoute, dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il faut se désocialiser. Il faut sortir de ce piège, de cette glu qui est la vie en société, qui décrit comme une sorte de cauchemar terminal. Hein. Sous la plage, il n'y a plus... non, c'est sous les pavés, il n'y a plus la plage. Il y a l'enfer et la sécurité. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ce texte est hyper actuel. Il nous fait bien prendre conscience qu'on est vaincu. OK, il n'y aura pas de révolution. C'est l'enfer et la sécurité qui triomphent, c'est les possédants et les bourgeois et les nantis et tous les gens qui te la font à l'envers pour toujours détourner les forces vives du pays pour contrôler tout et que tout soit... Voilà. Mais, au moins, c'est un baroud d'honneur, tu vois.
Ses mains bonnes à tout, même à tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien. Ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes ou tu veux aborder et pour t'en empêcher les mains de l'oppression. Regarde la gémir sur la gueule des gens avec leurs yeux fardés d'horaires et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux à l'oppression. Regarde la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe, regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse.
ces lois qui t'embarrassent au point de les nier. Dans les couloirs glacés de la nuit conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde la flâner dans l'œil de tes copains sous le couvert joyeux de regards fraternels. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ses yeux qui te regardent et la nuit et le jour et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux à l'oppression.
Les 50 ans, il n'y a plus rien avec Alaric Pérolier dans
Ferré Club sur Radio Libertaire.
On parlait un peu plus tôt dans cet entretien de l'édition phonographique et de la pochette d'Il n'y a plus rien. Je voudrais qu'on écoute ce que nous en disait lors d'une précédente émission son auteur, Patrick Ullmann.
C'est à l'Olympia. J'ai fait cette photo le soir de la générale de Gala.
Ouais.
Le tout Paris est invité. Le tout Paris pour Léo, c'était assez réduit quand même. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de stars qui venaient au récital de Léo, mais il y avait quelques fidèles.
Léo, il avait Cosimon.
Ouais.
Bah. Oui, avec Cosimon, il y avait une actrice qu'il adorait, qui s'appelait Nicole Courcelles.
Ah oui.
Ah ouais.
Oui. Aragon.
C'était. Hein,
oui, pas tout le temps.
Pas tout le temps.
Qui?
Aragon. Aragon. Oui, il a été une quelques fois.
Aragon à l'Olympia en 73, je ne le revois pas.
Peut-être non, pas mais pas de... non avant. Je...
Non, 69, non,
avant.
Non.
Avant, oui. Ah ben, au vieux oui, Colombier, bah, on ne voyait que Aragon et Elsa qui étaient là. Hein. Ce soir de gala. Il y a 40 photographes quand même.
Ah oui, ouais, mine de rien, d'accord.
Pour tous les artistes, ils ne savent pas qui chante d'ailleurs, ils s'en foutent.
Ouais.
Ils sont là, ils viennent pour le journal, ils appuient sur un bouton, ils font des photos. Et Léo en balance, il n'y a plus rien, au public estomaqué, parce que quand même, il n'y a plus rien à balancer à un public de général où 50% des gens ont la Légion d'honneur à la boutonnière.
Et le visant sur les épaules.
Et on leur envoie ça, ça fait bizarre.
Ouais.
Alors, il n'a pas fait un triomphe d'ailleurs, avec il n'y a
non.
plus rien. Hein.
Ah ben non, mais oui. Ouais.
Même, il se trouve que j'étais devenu entre-temps photographe de l'Olympia, donc hein, j'avais d'accord. quand même un grand éventail. L'Olympia et Bobine et Léo, c'est pas tout à fait... Mais c'est
comme pas
ça.
Une histoire d'amour.
Non. Ouais. Et quand il chante, il n'y a plus rien. Quand tu vois, on dit il chante. Hein.
On dit mais pas. Moi, je dis il chante. Aussi, parce qu'il chante. Parce qu'au moment, il récite et puis à un moment, il chante.
Ben, il y avait Cocatrix qui se. Parce qu'il était là, Cocatrix, bien sûr, et qui n'était pas non plus le meilleur ami de Léo. Et qui se frottait. Il se frottait sévèrement la Légion d'honneur, quand même, hein, Cocatrix. Parce que... il l'a entendu. Hein, ce rouge, vous avez la Méoséon pour près votre.
Comme
ça. Après, il m'a dit il y va fort, hein, votre ami, quand même. Bon, enfin donc, il y a 40 photographes en train de mitrailler. Moi, je mitraillais pas parce que j'avais pas beaucoup de sous, donc pas les moyens d'acheter beaucoup de pellicules. Donc, quand je mitraillais, quand je appuyais, c'est que j'étais à peu près sûr de faire une photo intéressante. Et je photographie donc ce texte qui fait 12 minutes, 11 minutes en scène.
Ouais.
Où l'éclairage ne bouge pas. Il a un projecteur sur lui. Léon est planté devant le micro. Et ne bouge pas, il a les bras comme ça. Et je vois, je ne travaille qu'en noir et blanc, hein, et je vois dans mon viseur une photo en couleur, verte, dorée, bleue.
Dans ton imaginaire, on va dire. Dans ta vision. Dans ta vision de photographe.
Oui, quand j'appuie dessus, je vois, ça me saute aux yeux, quoi. Voilà. Clac. Et je fais que du noir et blanc.
Ouais.
Dès que le récital était fini, je suis descendu dans mon labo, parce que j'avais mon labo, ça fait très privilégié, mais sous la scène de l'Olympia, quand même. Donc je vais dans mon labo, je développe la pellicule, et là, une fois encore, cette image me saute aux yeux, donc un négatif noir et blanc, hein, et j'en fais un tirage papier, que je passe dans des produits chimiques, pour y mettre de la couleur,
ouais.
qui vient s'additionner au noir et blanc, et qui met... Les couleurs de la pochette, il n'y a plus rien.
Et c'est comme ça qu'est née la pochette
Elle est née comme ça. Le lendemain, je viens montrer ça à Léo. Il y avait Léo dans la loge, il y avait Maurice Fro, il y avait un certain nombre de personnes. Et ils sont plutôt réticents pour cette photo-là.
C'était le côté graphique, du coup, qu'il est...
Les couleurs, qui étaient un peu...
Flashy.
Criard, pas tant que ça, en plus. Ouais.
Si, quand même, c'était un bleu-vert un peu fluo, c'était un peu...
Un peu psychédélique, limite.
Oui. Et j'avais d'autres photos moins intéressantes. Et j'ai compris, mais bon, c'est un peu méchant de dire des trucs posthumes, mais pas très très gentils, quoi. Mais il y avait... Maurice Fro, donc le secrétaire de Léo, qui m'aimait bien mais qui m'aimait pas trop, parce que sa copine était photographe. Donc il y avait un conflit d'intérêts, voilà. Quoi. Et Marsan était là, Richard Marsan, donc le directeur artistique de chez Barclay, qui dit c'est la pochette, il n'y a plus rien.
Évidemment.
En voyant la photo. Et Léo qui fait oui, t'as raison, c'est la pochette, il n'y a plus rien. Et Maurice Fro commence à dire « Oui, moi je trouve que peut-être c'est pas exactement ce qu'il faudrait. » Voilà, mais ils ont tenu bon et cette photo est devenue emblématique quand même.
Une des plus belles pochettes.
Je sais pas si c'est une des plus... Mais en tout cas, c'est une des plus connues.
Iconique.
Dans l'album, il n'y a plus rien. Il y a une image également qui est dans des couleurs violettes. Bordeaux, non? Rouge.
Litvin et orangé.
Litvin, ouais. Et des yeux.
Les yeux de Léo dans le ciel.
C'est les sourdes du ciel. Ouais.
C'est les yeux de Léo. Hein.
C'est
les yeux de Léo. Ouais, ouais.
D'accord.
Ouais. Mais je trouve que ça. Voilà, il n'y a plus rien. Moi, ça m'a donné cette image-là, quoi. De fin du monde. Ouais, c'est la fin du monde, quand même,
ouais.
Un peu, non?
Ouais, tout à fait.
Quand la météorite est tombée sur Terre, ça devait être un peu comme ça, quoi. Et elle a été classée comme une des trois plus belles pochettes de disques françaises.
Ah ouais?
C'est Rock and Folk avait fait un sondage il y a quelques années. Et j'avais été très touché de ça quand même. C'était pas mal.
Voilà ce petit appendice à propos de la pochette d'Il n'y a plus rien, racontée par son auteur, Patrick Ullmann, que j'embrasse par la même occasion. Extrait d'entretiens passés dans lesquels on te retrouve, Alaric, ainsi que Mathieu Ferré et Guillaume. Et puis il y a, le quatrième de couverture, tu parlais de la photo de Geneviève Van Eck, et il y a à côté de cette photo un texte signé Makout. Tu peux nous dire quelques mots concernant ce texte ?
Makout, c'était le surnom que Léo avait donné à Maurice Fro.
Donc c'est un texte de Fro.
C'est un texte de Fro. Initialement, ça devait être Richardson dans le texte qui est mentionné. C'est Richardson, ouais. C'était le surnom que Léo donnait
à
Richard Marsan, son directeur artistique. Chez Barclay, qui devait écrire, il n'était pas inspiré, il n'y arrivait pas, et donc du coup, c'est Fro qui s'y est collé, parce que ça se faisait, par exemple, à partir de. Dans l'album de Bobino, il y avait des textes de Léo, dans le premier album d'Il n'y a plus rien, il y avait. C'était dans l'édition qui rassemblait les deux volumes, il y avait Introduction à l'anarchie. Dans La solitude, il y avait un extrait d'entretien avec Françoise Travelet.
D'accord.
Il y avait un texte de Léo qui se. Une sorte de préface tirée des années blêmes d'ailleurs, dans la chanson du Mal-aimé.
Et donc ça se faisait de joindre un texte comme ça au.
Oui, parce qu'en fait, à l'époque, là c'est un peu hybride, les usages commencent un peu à changer. Il y avait le texte de Il n'y a plus rien, mais il n'y avait pas le texte de toutes les chansons. Il n'y avait pas de livret avec les textes.
Tout à fait.
Ça ne se faisait pas. Comme on ne mettait pas des crédits, des musiciens, tout ça, à notre grande dame, nous autres, parce qu'on aurait aimé savoir parfois qui jouait sur les morceaux. En tout cas, dans le monde de la chanson en France, parce que. Dans d'autres domaines, le jazz, tout ça, tout le monde était crédité. Et donc, du coup, mais ça se faisait depuis les années 50, hein, sur les 45 tours, les choses comme ça, il y avait des textes. Donc là, Fro écrit ce texte. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte qui, selon moi, annonce un petit peu... Alors, dans le texte, en fait, il s'adresse lui-même à Richard Marsan, en expliquant à Richard Marsan pourquoi Léo fait ce qu'il fait. Fait du symphonique.
Et ça annonce la rupture ?
Ça annonce le fait qu'ils sont pas trop sur la même longueur d'onde. Mmh. C'est-à-dire que je trouve que le texte de... Bon, moi, je suis pas très fan de la prose de Fro. Je trouve que c'est assez... bon, là, on parle de quelque chose qui, de toute façon, dans les éditions CD, n'existe plus. Hein. Mais c'est symptomatique. C'est, en fait, un texte qui aurait dû qui était censé introduire Léo en disant « Regardez, il prend un virage symphonique légitimé, en fait, le fait qu'il soit son propre arrangeur,
ouais.
Et donner envie. » Je trouve que ça, c'est le ton qui est employé, le fait qu'il s'adresse à, de façon assez pour Happy Few. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. On a l'impression qu'ils se parlent entre eux, mais en fait, ils ne s'adressent pas à l'auditeur.
Ouais.
Le fait qu'ils s'adressent à Richard Marsan et qu'ils lui disent « Bah, tu vois, t'es pas... » On comprend qu'il y a eu un peu des malentendus et que Léo, c'était pas évident chez Barclay qu'ils disent « Ah ben non, mais je vais m'arranger, c'est moi, j'ai plus d'arrangeur et je fais des trucs symphoniques. » Donc, en fait, il y a un côté un peu, pas règlement de compte, mais justification, mais formulée d'une manière que je trouve assez autiste, pas adressée au spectateur et pas dans un souci de transmission positive. Et on a l'impression qu'il termine par « Mais en fait, quand est-ce qu'il y a un prochain disque avec, en public avec Popol ?»
Ouais.
Parce que lui, c'est un orchestre à lui tout seul. Bah, ça dit tout. Ça dit qu'en fait, Fro, il n'est pas très fan du virage symphonique de Léo. En fait, lui, il est copain avec Popol, et il préfère quand Léo, il est sur son piano, et puis voilà, 3 francs 6 sous, et c'est parti, quoi. Ouais. Ça respire pas le mec qui a compris où voulait venir son ami, le soutient et le promeut. Ça respire un mec qui fait un texte de mauvaise grâce et qui tourne autour du pot pour masquer le fait qu'en fait c'est pas trop sa tasse de thé. Mmh. Et du coup, Léo, ça pouvait plus trop marcher l'amitié dans ces conditions si ses amis le contestaient sur sur sa démarche artistique. Je veux dire, ouais, il était un peu le seul juge. Enfin. C'est important pour un artiste de garder une oreille ouverte à la critique parce que parfois on se plante.
Et je pense que Léo, dans un moment décisif comme celui-ci, c'est quand même difficile d'entendre ceux qui sont tes amis de confiance, tes collaborateurs artistiques, qui plus est, te dire il y a un truc qui.
Après, le rôle d'un ami, c'est de dire quand tu fais de la merde.
Ouais, mais le rôle.
Mais là, en l'occurrence, Léo fait quelque chose de génial et ce qu'on constate, c'est que son entourage, en tout cas Maurice Fro, ne le perçoit pas comme ça.
Bah ouais, voilà.
Et un peu sceptique. Bon, il était inévitable que leurs chemins se séparent. Je dis pas que leurs chemins se sont séparés à cause de ça. Il y a eu d'autres malentendus et en fait, Ferré réglera ses comptes avec Fro dans Et Basta. Alors je pense que Léo, quand il a lu le texte, ça a pas trop dû lui faire plaisir. Mais il allait pas dire t'enlèves tel mot, t'enlèves tel truc, on enlève ton texte, je veux pas ton texte. Il a laissé permis, publier le texte.
Ouais, d'accord.
Mais le fait est qu'il y a quand même, en faisant écho à ça, à l'enregistrement, tu vois, il sort quand le prochain disque, l'enregistrement public avec Popol, référence au concert à l'Olympia de 72,
ouais,
qui a été capté par Barclay. Et en fait, on a l'impression que lui, c'est ça qui l'intéresse, parce qu'il y a son copain Popol. Et en fait, Fro, je pense, a aussi un peu œuvré pour détacher Popol de Léo, pour ensuite faire des trucs avec lui. D'accord. Bon, il y avait une usure, je pense que Popol s'est rendu compte, oui, il n'avait rien contre Léo, choses. Mais il s'est rendu compte qu'effectivement, Léo voulait faire des choses plus symphoniques, faire des orchestres, qu'il n'avait plus trop sa place, et puis qu'ils avaient beaucoup travaillé ensemble, peut-être qu'il fallait qu'ils se séparent, voilà. Mais peut-être qu'il a été influencé un peu aussi par Fro. Et donc, en fait, si tu veux, il fait référence à cet album qui va sortir après, qui s'appelle Seul en scène, un peu piloté par Marsan, un peu raté dans sa pochette, et qui en fait est dans sa post-prod aussi avec une réverbe dégueulasse, et que Léo va pas comprendre. Il va dire mais attends, je sors mon nouvel album quelques mois après, ou de manière très rapprochée, vous me sortez un album live, mais les gens achèteront pas l'album studio. Moi, ce qui compte, c'est mes trucs symphoniques. Et donc là, je pense que Léo, c'est aussi des petites gouttes qui remplissent le vase et qui fait qu'à un moment donné, il a envie de se casser de tout cet environnement Barclay.
Et il se sépare à ce moment-là, en 73, dans le courant de l'année 73, parce que tu dis il règle ses comptes avec Maurice Fro.
En fait, en 73...
Dans Et Basta. Donc Et Basta, qui sort autres, également en 73.
Avec Madeleine, c'est pas... Bah, en fait, si tu veux, donc l'album sort début 73, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien, c'est un album qui est désenchanté. Je disais, je parlais de désillusion, mais c'est une désillusion qui est plutôt collective et politique.
Ok. Okay,
c'est pas trop autobiographique. Il parle pas vraiment de lui, vraiment.
D'accord.
Sauf peut-être dans Richard. Et en fait, après, il y a cet album live qui était enregistré donc du coup en novembre 72 qui sort un peu après. Mmh. Et Léo continue à tourner avec ce spectacle jusqu'en mai-juin. Et après ça, Popol ne dit rien à Léo, ne laisse rien transparaître, et puis va lui envoyer sa lettre de démission. Et là, ça va vraiment déstabiliser Léo, parce que Léo ne s'y attendait pas. Il pensait pas que... Une lettre sans sans vindicte, enfin, je veux dire, il n'a pas quitté Léo fâché, Castagnier, c'était vraiment, voilà. On a fait notre temps, maintenant, chacun sa route, c'était super, voilà. Dans la foulée de l'été 73, il y a la rupture avec Fro. Il y avait un ensemble de reproches réciproques, de malentendus, et Léo lui dit « Bon, tu signes plus rien en mon nom, c'est fini. » Bon, ce que Fro a fait, sans doute, c'est qu'il a un petit peu... il a pas su rester à sa place. Il a voulu, un peu comme Madeleine, il a voulu piloter Léo et prendre des décisions un peu à sa place, sur l'artistique. Et ça, c'était à ne pas faire. Mmh. Et donc, rupture. Et il se trouve qu'à la rentrée, dernier trimestre de c'était en septembre, je ne sais plus, de 73, Léo arrive avec un grand texte et il enregistre de manière très impromptue Et Basta, qui est très autobiographique, qui est un peu comme une sorte de journal intime. Et dedans, de manière très cryptée, c'est assez crypté, il gomme les références directes, mais... Les intéressés qui, s'ils l'ont écouté, n'auront pas manqué de se sentir visés, règlent quelques comptes amoureux et amicaux, et avec la société. Il faudrait faire un truc sur l'album Et Basta, ouais. Et pourquoi cet album a lieu. C'était pas une intention de départ de Léo, mais ouais. Ça s'est imposé à lui, ça s'est fait, Et du coup, par rapport à ta question, je crois que j'ai répondu, non ?
Oui, c'était pour comprendre. Oui.
Et après, la rupture avec Barclay arrive début 75.
Bien sûr, mais c'était pour comprendre le cheminement de l'année 73, où on a quand même, au début de l'année, la parution de Il n'y a plus rien avec le texte de Richard, de Maurice Fro. Et à la fin de l'année, tu nous expliquais, et effectivement, quand on connaît un peu l'histoire de Léo, on comprend dans la chanson Et Basta qu'il règle ses comptes avec Maurice Fro, donc voilà, juste comprendre l'articulation de l'année 73 qui fait...
Il n'y a plus rien, l'album, on dit c'est un album assez sombre, que c'est à la fois un nouveau départ, mais c'est aussi la fin de quelque chose. Enfin, ça coïncide, c'est pas vraiment dans les textes, hein, c'est pas vraiment dans les textes, si ce n'est qu'on peut considérer qu'il n'y a plus rien, c'est... l'abandon d'une certaine utopie politique de la part de Léo. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de choses précises dans sa vie qui sont dans les chansons. C'est plutôt dans Et Basta, éventuellement un peu dans L'Espoir. Ouais. Mais dans L'Espoir, d'ailleurs, la chanson, qui est quand même référencée à sa vie. Et pourtant, ça paraît l'année 73, et l'année 73, c'est l'année de deux ruptures avec ses deux copains de 68, en fait. Ils les connaissaient d'avant, mais ils sont devenus très très proches. C'était un trio après 68, parce que Léo a quitté...
Après la séparation avec Madeleine,
voilà, et donc c'était un trio de copains. Ouais, et là, ça s'arrête, et Léo va aller vers une formule plus solitaire, mais en même temps très peuplée, ouais, là aussi, avec les orchestres symphoniques.
Une dernière question par rapport à Basta. Est-ce que Basta va paraître de la même manière que paraît Il n'y a plus rien, avec, on peut dire, l'album promo qui va permettre à Léo de faire des tournées? Pas du tout, parce que c'est un texte qui se prête absolument pas au concert, quoi.
Non, c'est... Alain Remeker m'avait dit que le truc était sorti sans promo, il travaillait chez des disquaires à l'époque, ils n'avaient pas été prévenus, il n'y avait pas de précommande, ouais. Rien, du jour au lendemain, le truc, pouf, sort, pas de pub.
Ah ouais.
Donc je pense que ça a été fait à l'arrache, clairement, je pense que ça a été fait très vite.
Mais liberté quand même de la part de Barclay de faire paraître un truc comme ça qui apparemment
À l'époque, Léo est à la mode et puis le disque se vend bien. Donc quand même, ils se disent, on s'en fout du contenu.
Ah,
Léo,
tu veux dire, le disque d'une manière générale se vend bien. Parce que Basta.
Oui, alors il faudrait qu'on en parle une autre fois.
On en parlera une autre fois, ouais, absolument.
Sur pourquoi ce truc a eu lieu.
1973. Parution d'Il n'y a plus rien, 2023, 50 ans plus tard, ce soir, je voulais qu'on fasse cet anniversaire à cet album qui compte énormément pour moi et qui, je le sais, compte pour nombre d'auditeurs et d'auditrices et membres du Ferré Club. On a terminé l'année 2022 avec toi, Alaric. Nous avions parlé de la parution du quatrième volet La Marge aux éditions La Mémoire et la Mer, qui est toujours en vente d'ailleurs sur leo-ferré.com au passage. On termine l'année 2023 une nouvelle fois avec toi et j'en suis ravi. Je te remercie d'avoir passé tout ce temps en notre compagnie. Et donc, je te donne rendez-vous peut-être l'année prochaine pour terminer l'année 74 avec l'espoir. L'année 2024, pour le coup.
Gardons espoir.
Merci beaucoup, Alaric.
Salut à vous.
À très bientôt.
silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure, avec le sable qui se remonte un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture, immobile. L'immobilité, ça dérange le siècle. C'est un peu le sourire de la vitesse, et ça sourit pas l'herche, la vitesse, en ces temps. Les amants de la mer s'en vont en Bretagne ou à Tahiti. C'est vraiment con, les amants. Il n'y a plus rien. Camarade maudit, camarade misère. Misère, c'était le nom de ma chienne qui n'avait que trois pattes. L'autre, le destin la lui avait mise de côté pour les Olympiades de la bouffe et des culs semestriels qu'elle accrochait dans les buissons pour y aller de sa progéniture. Elle est partie, misère. Dans des chaos, quelque part dans la nuit des chiens. Camarade tranquille, camarade prospère, quand tu rentreras chez toi, pourquoi chez toi? Quand tu rentreras dans ta boîte, rue d'Alésia ou du Four. Si tu trouves quelqu'un dans ton lit, si tu y trouves quelqu'un qui dort, alors va-t'en, dans le matin clairé, seul, ne te marie pas. Si c'est ta femme qui est là, réveille-la de sa mort imagée, fous-lui une baffe, comme à une coréenne syncope. Ou une crise de nerfs. Tu pourras lui dire, dis, t'as pas honte de t'assumer comme ça dans ta liquide sénescence. Dis, t'as pas honte alors qu'il y a 90 000 espèces de fleurs, espèces de connes, et barre-toi, divorce-la, te marie pas. Tu peux tout faire, t'empaqueter dans le désordre pour l'honneur, pour la conservation du titre. Le désordre, c'est l'ordre. Moins le pouvoir, il n'y a plus rien. Je suis un nègre blanc qui mange du cirage parce qu'il se fait chier à être blanc, ce nègre. Il en a marre qu'on lui dise sale blanc. À Marseille, la sardine qui bouche le port était bourrée d'héroïne. Et les hommes grenouilles n'en sont pas revenus. Libérez les sardines et il n'y aura plus de marailleurs. Si tu savais ce que je sais, on te montrerait du doigt dans la rue. Alors, il vaut mieux que tu ne saches rien. Comme ça, au moins, tu es peinard. Anonyme, citoyen, tu as droit, citoyen, au minimum décent, à la publicité des enzymes et du charme, au trafic des dollars et aux trafiquants d'armes qui traînent les journaux dans la boue et le sang. Tu as droit à ce bruit de la mer qui descend, et si tu veux la prendre, elle te fera du charme, avec le vent au cul et des sextants d'alarme, et la mer reviendra sans toi, si tu es méchant, les mots. Toujours les mots, bien sûr. Citoyen, aux armes. Au pépé, citoyen. À l'amour, citoyen. Nous entrerons dans la carrière quand nous aurons cassé la gueule à nos aînés. Les préfectures sont des monuments en airain. Un coup d'aile d'oiseau ne les entame même pas. C'est vous dire, nous ne sommes même plus des juifs allemands. Nous ne sommes plus rien. Il n'y a plus rien. Des futales bien coupées sur lesquelles lorgnent les gosses, certes. Des poitrines occupées, des ventres vacants. Arrange-toi avec ça. Le sourire de ceux qui font chauffer leurs gamelles sur les plages reconverties et des moustiquées, c'est-à-dire en enfer, là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnu par ses admirateurs. Dieu est une idole aussi. Sous les pavés, il n'y a plus la plage. Il y a l'enfer et la sécurité. Notre vraie vie n'est pas ailleurs, elle est ici. Nous sommes au monde, on nous l'a assez dit. N'en déplaise à la littérature. Les mots, nous leur mettons des masques, un paillon sur la tronche. À l'encyclopédie, les mots, et nous partons avec nos cris. Et voilà, il n'y a plus rien, plus rien. Je suis un chien, perhaps, je suis un rat, rien. Avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue, nous arrivons avec nos accessoires pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher tout nu. Fous en l'air tes pantoufles, renverse tes chaises, mange debout, assois-toi sur des tonnes d'inconvenances et montre-toi à la fenêtre en gueulant des gueulantes de principe. Si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroûte et devient une habituelle révolte, alors sors, marche, crève, pèse, aime enfin les arbres, les bêtes et détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche ces notions, si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien. Il n'y a plus rien, plus rien. Invente des formules de nuit. C'est CLN, c'est la nuit. Même au soleil, surtout au soleil, c'est la nuit. Tu peux crever. Les gens,
ne retiendront même pas une de leurs inspirations. Ils canaliseront sur toi leur air vicié en des regrets éternels, puant le certificat d'études et le catéchisme ombilical. C'est vraiment dégueulasse. Ils te tairont, les gens. Les gens taisent l'autre, toujours. Regarde à table quand ils mangent. Ils s'engouffrent dans l'innommé, ils se dépassent d'eux-mêmes et s'en vont vers l'ordure et le rot ponctuel. La ponctuation de l'absurde, c'est bien ce renversement des réacteurs abdominaux. Comme à l'atterrissage, on rote et on arrête le massacre. Sur les pistes de l'inconscient, il y a des balises baveuses, toujours un peu se souvenant du frichti, de l'organe, du repu. Mes plus beaux souvenirs sont d'une autre planète où les bouchers vendaient de l'homme à la criée. Moi, je suis de la race ferroviaire qui regarde passer les vaches. Si on ne mangeait pas les vaches, les moutons et les restes, nous ne connaîtrions ni les vaches, ni les moutons, ni les restes. Au bout du compte, on nous élève pour nous becter. Alors, bectons. Côte à l'os pour deux personnes. Tu connais ? Heureusement, il y a le lit. Un parking, tu viens mon amour. Et puis, c'est comme à la roulette, on mise. Si la roulette n'avait qu'un trou, on nous ferait miser quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je comprends les joueurs. Ils ont 35 chances de ne pas se faire mettre. Et ils mettent. Le drame dans le couple, c'est qu'on est deux. Et qu'il n'y a qu'un trou dans la roulette. Quand je vois un couple dans la rue, je change de trottoir. Ne marie pas, ne vote pas, sinon t'es coincé. Elle était belle comme la révolte. Nous l'avions dans les yeux, dans les bras, dans nos futales. Elle s'appelait l'imagination. Elle dormait comme une morte, elle était comme morte. Elle sommeillait, on l'enterra de mémoire. Dans le cocktail Molotov, il faut mettre du martini, mon petit. Transbahuter vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière, rien dans les mains, rien dans les poches. Tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer ? Non. Comment vous nommez-vous ? Karl Marx. Allez, passez ! Nous partîmes. Nous étions une poignée. Nous nous retrouverons bientôt démunis, seuls, avec nos projets dans le passé. Écoutez-les, écoutez-les. Ça rappe comme le vin nouveau. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Bientôt, ça débordera sur les trottoirs. La parlotte, ça n'est pas un détonateur suffisant. Le silence armé, c'est bien, mais il faut bien fermer sa gueule. Toutes des concierges, écoutez-les. Il n'y a plus rien. Si les morts se levaient, hein? Nous étions combien? Ça ira. La tristesse, toujours la tristesse. Ils chantaient dans les rues de Maripa, ceux de San Francisco, de Paris, de Milan, et ceux de Mexico, bras dessus, bras dessous, bien accrochés aux rêves. Ne vote pas, ô DC-8 des pélicans, cigognes qui partent à l'heure, labrador, lèvres des pissants. J'invente en bas des rênes bleues, un habit rouge du couchant. Je vais à l'ouest de ma mémoire, vers la clarté, vers la clarté. Je m'éclaire la nuit dans le noir de mes nerfs. Dans l'or de mes cheveux, j'ai mis 100 000 watts. Des circuits sont en panne dans le fond de ma viande. J'imagine le téléphone dans une lande, celle où nous nous voyons, moi et moi, dans cette brume obscène au crépuscule teint. Je ne suis qu'un voyant embarrassé de signes. Mes circuits déconnectent. Je ne suis qu'un binaire. Mon fils, il faut lever le camp. Comme lève la patte. Il est tôt. Lève-toi. Prends du vin pour la route. Dégaine-toi du rêve anxieux des bien assis. Roule, roule, mon fils. Vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras. Tu te reconnaîtras. Ton dessin devant toi. Tu rentreras dedans. La mue, ça se fait à l'envers. Dans ce monde inventif, tu reprendras ta voix de fille et chanteras demain. Retourne tes yeux au-dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur, quand tu auras outrepassé ta vision, alors tu verras rien. Il n'y a plus rien que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres, que les messieurs, que les madames, que les assis dans les velours glacés, soumis, mollasses, que ces horribles magasins roulants qui portent tout en devanture, tous ceux à qui tu pourras dire « Monsieur, madame, laissez donc ces gens-là tranquilles, ces courbettes imaginées que vous leur inventez, ces désespoirs soumis, toute cette tristesse qui se lève le matin à heure fixe pour aller gagner vos sous avec les poumons resserrés, les mains grandies par l'outrage et les bonnes mœurs, les yeux défaits par les veilles soucieuses, et vous comptez vos sous, pardon, leurs sous. Ce qui vous déshonore, c'est la propreté administrative, écologique, dont vous tirez orgueil dans vos salles de bain climatisées, dans vos bidets déserts, en vos miroirs menteurs. Vous faites mentir les miroirs, vous êtes puissants au point de vous refléter tel que vous êtes, cravatés, envisonnés, empapaoutés de morgue et d'ennui dans l'eau verte qui descend des montagnes et que vous vous êtes arrangés pour soumettre à un point donné, à heure fixe, pour vos narcissiques partout. Vous vous regardez et vous ne pouvez même plus vous reconnaître tellement vous êtes beau et vous comptez vos sous en long, en large, en marge de ces salaires que vous lâchez avec précision, avec parcimonie, j'allais dire en douce, comme ces aquilons avant-coureurs et qui racontent les exploits du bol alimentaire, avec cet apparat vengeur et nivellateur qui empêche toute identification. Je veux dire que pour exploiter votre prochain, vous êtes les champions de l'anonymat. Les révolutions, parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer parce qu'elles vous servent, parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire, parce que les histoires, ça vous amuse avant de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse, il est trop tard. On vous dit qu'il s'en prépare une autre. Lorsque quelque chose d'inédit vous choque et vous gêne, vous vous arrangez la veille, toujours la veille, pour retenir une place dans un palace d'exilés, dans un pays sûr, entouré du prestige des déracinés, les racines profondes de ce pays, c'est vous, paraît-il. Et quand on vous transbahute d'un désordre de la rue, comme vous dites, un ordre nouveau, vous vous faites greffer au retour et on vous salue. Depuis 200 ans, vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier pour n'en pas perdre une miette, n'est-ce pas? Et les vauriens qui vous amusent, ces vauriens qui vous dérangent aussi, on les enveloppe dans un fait divers, pendant que vous enveloppez les vôtres dans un drapeau. Vous vous croyez toujours, vous autres, dans un haras. La race, ça vous tient debout. Dans ce monde que vous avez assis, vous avez le style du pouvoir. Vous en arrivez même à vous parler à vous-même, comme si vous parliez à vos subordonnés, de peur de quitter votre stature, vos boursouflures, de peur qu'on vous montre du doigt dans les corridors de l'ennui et qu'on se dise « Viens, il baisse, il va finir par se plier, par ramper, soyez tranquille, pour la réputation vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez que dans la métaphore. Vous voulez bien vous allonger, mais avec de l'allure, cette allure que vous portez, monsieur, à votre boutonnière. Et quand on sait ce qu'a pu vous coûter de silence aigre, de renvois mal aiguillés, de demi-sourires séchés comme des larmes, ce ruban malheureux et rouge comme la honte, dont vous ne vous êtes jamais décidé à empourprer votre visage, je me demande pourquoi la nature met tant d'entêtement, tant d'adresse et tant d'indifférence biologique à faire que vos fils ressemblent à ce point à leur père, depuis les jupes de vos femmes matrimonières jusqu'aux salonnardes équivoques où vous les dressez à boire dans votre grand monde, à la coupe des bien-pensants. Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil, sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là si vous pouvez. Nous, on peut pas. Un jour, dans 10 000 ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout, rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, les bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche, permettez, nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout. Et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos silothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même, tous ces microbes juridico-pantoufles, soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans 10 000 ans.
C'est la fin du Ferry Club. À la semaine prochaine.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h01, nous sommes le mercredi 27 décembre 2023, vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire. C'est parti pour 1h30 d'émission consacrée aux livres, nous allons parler de livres, des livres, et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvie Lefebvre pour son ouvrage « La magie du codex » paru aux Belles Lettres en 2023. Avant que nous présentions les ouvrages, Fred, une annonce peut-être ?
Tout à fait, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Donc une petite annonce. Dans le cadre du Ciné de la Commune, le 17 janvier, nous projetterons le film « Schkoun, les sauvages », un film de Raphaël Bruyas. C'est des témoignages des habitants du quartier de Mont-Rénaud à Saint-Étienne qui font référence à une émission de télé, comment s'est passé, disons, ce tournage et ce qu'ils en ont ressenti. Donc c'est un documentaire sur un film, en fait, sur un tournage. Vous pourrez nous contacter aussi via notre blog en cherchant sur Google Commune de Paris Fédération anarchiste overblog.com sur la rubrique contact, et n'oubliez pas aussi de soutenir Radio Libertaire en allant directement sur le site radiolibertaire.org. Sur la page d'accueil, vous trouverez sur votre écran en bas à droite soutenir la radio, et toutes les explications sont dessus. Je repasse le micro à Francis.
Merci Frédéric. Alors en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale pour nous présenter des livres, par exemple, bien c'est Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Mais mettez bien sur l'enveloppe Au fil des pages, émission Au fil des pages sur Radio Libertaire, car il y a d'autres émissions et parfois il y a des interférences. Premier temps de l'émission, et avant de rentrer encore dans la présentation des livres, je voudrais rappeler la disparition, il y a une dizaine de jours, de Claude Villers, un grand homme de la radio. On écoutait Marche ou rêve, on écoutait évidemment le célèbre tribunal des flagrants délires avec Pierre Desproges, et Claude Villers est décédé. Je vous renvoie sur le site du Monde Libertaire, nous avons Florence de l'émission Des cailloux dans l'engrenage, a fait un hommage à Claude Villers. Voilà. Premier temps, donc, de l'émission, en ces temps de fin d'année, certains d'entre nous veulent découvrir des expositions, et je vous propose celle consacrée à Steinlen, qui se déroule au musée de Montmartre en ce moment. De Théophile Alexandre Steinlen, nous connaissons évidemment la célèbre affiche du Chat Noir, le cabaret montmartrois. Or, cet affichiste, graveur, peintre, sculpteur, sut mobiliser ses talents artistiques au service aussi de la cause sociale, celle du monde ouvrier. Et pour valoriser son œuvre, le musée de Montmartre organise une exposition de ses tableaux, de sculptures, jusqu'au 11 février 2024. Et comme le soulignent les organisateurs, un fil conducteur se détache, celui de l'engagement, tant l'artiste associa art et politique en se faisant témoin de son temps. Il croyait en la mission sociale et politique de l'art comme voix, V-O-I-E,